Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Et moi, le but, c'est de réaliser mes rêves, c'est de dire, mais très souvent, on me dit, mais c'est quoi ton meilleur souvenir? Et moi, ma réponse, elle est toute simple, mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs dans ma tête à réaliser, laissez-moi tranquille avec mes meilleurs souvenirs. C'est pour ça que je dis très souvent, l'impossible, c'est juste nous. C'est personne d'autre. L'impossible, c'est juste nous. Quand tu es capable de demander un coup de main à quelqu'un, quand tu es capable d'avancer, même si c'est dur, même si tu pleures, mais va au bout de ton rêve, quoi. Ne lâche pas l'affaire. Tu es propriétaire de ta vie. À vous de jouer, quoi. Allez-y, défoncez-nous la tête. Montrez-nous qu'on a eu tort et que c'est vous qui avez raison. Mais vraiment, vous avez le destin en main, quoi. Vous avez votre destin en main. Et j'espère que ce que j'ai réalisé puisse vous montrer une voie, la voie du tout est possible. Mais vraiment.
Difficile de trouver un meilleur exemple que celui de Philippe pour illustrer le tout est possible. À 26 ans, il est touché par une ligne électrique et subit 3 décharges de 20 000 volts. Ses membres sont entièrement carbonisés et il se réveille amputé des 4 membres. Une histoire pas si jolie dite comme ça, et pourtant, les prochaines pages qu'a décidé d'écrire Philippe sont dignes d'un roman de science-fiction version 5D. Après 7 ans de dépression, il réalise le cadeau qu'est cette vie et le champ des possibles qu'il existe, quelle que soit notre situation. Alors avec ou sans jambes, avec ou sans bras, finalement, il en faudra plus pour retenir les rêves de Philippe. Il se lance dans la traversée de la Manche à la nage, et à croire que les rêves trop petits appellent ceux plus haut encore, il poursuit par son expédition Nager au-delà des frontières, qui relie les 5 continents à la nage. Écoutez les mots de Philippe, regardez son parcours et ses rêves, ça donne une niaque démesurée. La puissance de vie qu'il émane ne peut que nous faire relativiser sur le reste. Finalement, perdre son iPhone 10 ou louper un examen, c'est assez insignifiant. Et ce qui compte, c'est la force que l'on décide de donner à nos rêves. Aujourd'hui, Philippe Croizon est devenu un symbole du dépassement de soi, une source d'inspiration et d'élévation pour de nombreuses personnes, et comme la vie est grande, ses rêves sont encore nombreux. En septembre, il rencontrera Elon Musk pour une éventuelle mission dans l'espace.
Tu as l'habitude des interventions ? Ouais, puis on va arrêter avec le mot coupé, ça me stresse.
Si je commence comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Non, mais en tout cas, c'est très chouette, Philippe, de m'accueillir chez toi. On a vu sur l'océan, là. Je crois que j'ai jamais fait une interview aussi près de l'océan. On a quasiment les pieds dans l'eau, quand même.
Ah oui, pour toi, mais moi, ça va être compliqué d'avoir les pieds dans l'eau. Mais oui, effectivement, la mer, c'est l'endroit qui a changé ma vie. Donc, la traversée de la Manche.
Oui.
Donc, ça a changé mon parcours de vie et donc, je l'aime profondément.
Oui, eh ben, on va revenir sur tout ça, Philippe. Effectivement, on te présente souvent par ton passé, notamment par l'heureux drame qui t'est arrivé. Alors avant de parler de ton accident, j'aimerais pour une fois que tu te présentes sans t'identifier à ton histoire passée. Qui es-tu aujourd'hui, Philippe ?
Aujourd'hui, je suis un aventurier de l'extrême, surtout un conférencier. Je fais beaucoup, beaucoup de conférences. Je fais à peu près entre 80 et 100 conférences à l'année, donc ce qui est un métier à plein temps et ce que j'aime au plus profond de moi-même. Donc j'aime être au contact des gens et partager. C'est peut-être pour ça qu'on est là aujourd'hui tous les deux.
Oui, certainement.
Donc,
oui.
Bah ouais. Donc voilà.
On n'a pas dit, en fait, on a Angoulins à côté de La Rochelle.
Exactement.
Je ne connaissais pas du tout cet endroit, c'est très très mignon. On va revenir sur ton enfance. Quel petit enfant tu étais ? Comment tu pourrais définir le garçon que tu étais ? Quand tu avais 7 ans ?
Quand j'avais 7 ans, j'ai été élevé par 2 personnes, ma grand-mère et ma mère. Mon père est là, hein, mais les deux personnages qui m'ont marqué dans ma vie, c'est 2 femmes. Ma grand-mère qui m'a élevé dans le sérieux, qui m'a élevé dans le souviens-toi d'où tu viens, où sont tes racines, et ma mère qui m'a élevé dans la bêtise. Viens, on va se déguiser, on va faire les foufous. Enfin voilà, c'était vraiment ces deux personnages-là qui m'ont construit. Et à 7 ans, j'étais un petit garçon un peu foufou. Enfin, j'adorais faire la fête, j'adorais écraser les fleurs de ma grand-mère pour me faire engueuler. Et voilà, donc, et à 7 ans, on est encore dans l'insouciance. Donc, pour moi, j'ai plutôt un souvenir joyeux de mes grands-parents, de vivre chez eux et de mon grand-père qui était jardinier, ma grand-mère qui s'occupait de la cuisine. Enfin, voilà, c'est... des valeurs sûres. Des valeurs sûres, ouais.
Est-ce que tu as des rêves à cet âge-là? Comment tu perçois ton avenir?
Non, j'ai pas de rêve à ce moment-là, je pense pas. Enfin, j'en ai pas le souvenir. Enfin, faut savoir que mon accident a effacé beaucoup de choses. C'est-à-dire que mon disque dur a été remis à zéro. Et donc, j'ai des bribes de souvenirs et j'ai les souvenirs qu'on m'a racontés. Mais c'est revenu au fur et à mesure du temps. Donc, je vois pas, j'imagine pas quelque chose à 7 ans, non. Non.
Donc, à 26 ans, tu es touché par une ligne électrique de 20 000 volts. Et tu subis 3 décharges électriques et tes membres sont entièrement carbonisés. Est-ce que tu peux nous raconter quand même un petit peu cet accident?
Ouais, c'est en voulant apporter au mieux le meilleur qu'il m'est arrivé le pire. J'avais un petit garçon, Jérémy, âgé de 7 ans. Un petit bébé allait arriver et il a fallu déménager. Sur le toit de ma maison, il y a une antenne. Et en bon bricoleur que je suis, on voit le résultat, hein, j'ai pris une échelle d'aluminium. Je suis monté sur le toit, je me suis cordé à la cheminée pour pas tomber. J'ai déboulonné l'antenne, j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit, ça passe. Et mes deux tibias ont touché l'échelle en aluminium, ce qui a créé un contact avec la terre. Et là, il y a un arc qui s'est produit entre la ligne et l'antenne. Et là, 20 000 volts ont traversé mon corps. Donc, tu l'as très bien dit, hein, il a fallu m'amputer des 4 membres. Il y a eu 3 décharges. Et après, là, il y a un nouveau parcours de vie qui va redémarrer. Mais le plus dur, tu sais, dans mon accident, c'est surtout quand j'ai reçu ma facture EDF, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre détail.
C'est impressionnant maintenant, ça fait plusieurs années, mais le recul et l'humour que tu arrives à mettre sur tout ça.
Mais l'humour est un outil de résilience.
Oui.
L'humour est un outil de résilience extraordinaire. D'abord, il y a l'humour qui va faire mal parce qu'on a besoin de faire du mal à ceux qu'on aime pour se faire du bien à soi-même. C'est bizarre, hein, mais c'est naturel, ça fait partie de la vie. Et on sait que ceux qu'on aime vont résister à cet humour noir. Ils vont souffrir. Et après, il y a l'humour potache, il y a l'humour qui fait du bien normalement. Voilà, ça, je l'explique dans mon 4e bouquin qui s'appelle « Pas de bras, pas de chocolat ». C'est toutes ces phases d'humour qui sont différentes mais qui sont nécessaires pour se reconstruire.
C'est important, l'humour, oui. Donc au moment de l'accident, entre les deux premières décharges, alors la première provoque un arrêt cardiaque,
oui.
Et la deuxième te réanime. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête entre ces deux décharges? Tu dois réaliser que il s'est passé quelque
écoute,
chose.
Écoute, entre les deux décharges, je vois ma vie défiler à une vitesse folle. Le film est court, hein, 26 ans, donc c'est assez rapide. Et après, je reviens à moi et à partir de ce moment-là, je ne perdrai plus jamais connaissance. Mais je me sens partir, je sens ma source vitale partir et je dis au revoir à mon fils qui est en bas, à mon épouse, leur dit au revoir que je vais partir. Et là, je prends feu, quoi. Je prends feu et c'est un voisin qui a vu les déflagrations. Quand on a eu la coupure de courant, il a mis des bottes en caoutchouc, des gants. Et il est monté avec un extincteur, il m'a éteint 2 fois. Et pour lui dire merci, je lui ai fait un clin d'œil. Et depuis, on est devenus super potes. Bon, on comprend pourquoi. Hein.
Donc, tu es hospitalisé pendant 3 mois et tu as plus de 100 heures d'anesthésie et d'opération. Quand tu te réveilles pour la première fois sur ton lit d'hôpital et que tu réalises ce qui vient de se passer, qu'est-ce que tu te dis?
Je me dis que ma vie est finie, ce qui est un réflexe normal. C'est un réflexe humain. Quand tu rentres dans l'univers du handicap, qu'il t'arrive une grosse catastrophe comme ça, tu te dis mais ça s'arrête maintenant. Il ne peut plus y avoir une espérance de vie derrière. Enfin, j'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie sans bras et sans jambes? Alors je me laisse partir, j'ai juste envie de mourir. Ce qui est un réflexe normal. Tu sais, quand on rentre dans l'univers du handicap, qu'il nous arrive une tuile, n'importe laquelle, d'ailleurs on l'a vécu avec le coronavirus, c'est une tuile, on a 5 phases à franchir, 5 phases obligatoires pour se reconstruire. La première, je crois que je vais l'expliquer un petit peu, c'est la négation. On refuse ce qui nous arrive. Tu sais, avec les fameux « pourquoi ?»« Pourquoi ceci ?»« Pourquoi cela ?»« Pourquoi ?» Il n'y a pas de réponse en « pourquoi ?» Les « pourquoi » ils sont là pour vous harceler, pour vous piquer, pour essayer de vous reconstruire un petit peu, pour essayer de vous réveiller. Après, il y a la phase de négociation. Moi, en l'occurrence, c'était entre vivre ou mourir. Pendant le coronavirus, les gens, c'était la négociation, c'était est-ce que j'ai le droit de sortir? Est-ce que j'ai le droit de partir? Est-ce que j'ai le droit de chercher mon pain? Enfin, c'était quand même assez insignifiant. Après, il y a la phase de dépression. Là, je pense qu'on est tous en ce moment dans une phase de dépression collectivement. Ensuite vient la phase de colère. Moi, ma phase de colère, elle est arrivée seulement 7 ans après mon accident. Parce qu'il n'y a pas d'ordre prédéfini. Et surtout, il n'y a pas de durée de temps prédéfinie. Une phase peut durer 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an ou toute la vie. On peut rester bloqué sur une phase toute sa vie si on n'a pas une épaule avec qui parler, avec qui pleurer, avec qui expliquer notre détresse. Et après, bien sûr, la dernière phase, c'est le retour à la vie, l'acceptation. C'est pour ça que je le dis très souvent, il faut parler.
Oui.
à une amie, à quelqu'un, une infirmière à l'école, n'importe qui, mais il faut parler, il faut vider son sac. Ça, c'est la chose la plus importante.
Et pour toi, quelle a été cette épaule sur laquelle tu as pu décharger tout
Mon épaule, elle est arrivée seulement 7 ans après mon accident, parce que mon père avait demandé à tout le monde de jouer un rôle de « tout va bien, je vais bien ». Donc tout le monde s'est autoprotégé pendant 7 ans. Moi, je n'ai pas parlé de mon accident, ma famille ne me parlait pas de l'accident. Tout le monde se protégeait, personne ne pleurait. Et au bout de 7 ans, quand j'ai explosé, mon père a explosé, ma mère, et là, j'ai demandé un coup de main au psy pour me reconstruire. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer une infirmière psy extraordinaire et qui m'a aidé pendant un an à venir me voir 2 fois par semaine. Et on a reconstruit le personnage pour redémarrer une nouvelle vie. Donc encore une fois, tout est possible.
C'est merveilleux. Quel était ton plan de vie avant que le destin décide autrement? Comment tu imaginais un petit peu le déroulé des années?
Je pense que j'étais un personnage... C'est bizarre, hein, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais un personnage lambda, c'est-à-dire que... J'avais un petit plan de carrière. Enfin, j'étais ouvrier métallo à la base, hein, parce qu'à l'école, j'ai pas été très très bon et j'étais papa très jeune. Et quand je suis rentré aux fonderies du Poitou, j'ai travaillé dans un métier assez difficile. Je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma vie. Donc après, je travaillais de nuit, je dormais le matin et l'après-midi, j'allais à l'école. Et j'ai fait ça pendant 3 ans. Et après, j'ai eu un diplôme pour m'améliorer dans l'entreprise et je suis devenu radiologue. Donc je passais les pièces à la radio comme un squelette humain, sauf que je regardais l'intérieur des pièces. Et quelques mois plus tard, j'ai eu un accident, donc il a fallu tout recommencer une nouvelle fois. Mais j'avais ce plan dans ma tête de dire, je peux pas rester comme ça toute ma life. Donc j'avais peut-être déjà cette énergie-là de dire, on peut s'en sortir si on a la volonté, et de dire, allez, faut se battre, quoi.
T'avais déjà un peu de niaque.
J'avais déjà un peu de niaque, ouais. Mais après, cette niaque assez démultipliée, mais longtemps après, 10 ans après l'accident.
Oui, tu dis, je suis mort le 5 mars 1994. J'affirme que ma vie s'est arrêtée ce jour-là, puis une autre a commencé. Comment on voit cette autre vie après un tel accident?
C'est un long parcours. Avant de la voir, c'est vraiment un long parcours. C'est-à-dire le plus dur dans mon accident, c'est pas l'accident lui-même, c'est pas le centre de rééducation, même si le centre de rééducation, c'est des litres et des litres de larmes et des litres et des litres de sueur. J'ai passé 2 ans en milieu hospitalier. Le plus dur, le plus violent, c'est le retour à la maison. C'est ce que vous avez vécu avec le coronavirus. Le retour à la maison. Et là, je me suis renfermé sur moi-même. J'avais peur et j'avais honte de mon nouveau schéma corporel. Et je me suis renfermé et j'ai regardé la télé pendant 7 ans. C'est-à-dire, je faisais lit, canapé, canapé, lit, et je suis pas sorti. Et je suis rentré dans une phase, excuse-moi, mais je vais dire un gros mot, mais dans une phase gros con, dans ma phase où tout m'est dû. C'est moi qui ai eu un accident, vous allez m'écouter, ouais. Donc c'était un mélange de, parce que les 5 phases que j'expliquais tout à l'heure, on peut être bien un jour et bam, on fait un marche arrière d'un seul coup, on se demande pourquoi, on retourne dans la dépression, on repasse dans la colère, on passe dans le déni. Enfin, c'est une violence pendant, ça a duré 7 ans. Et au bout de 7 ans, mon épouse est partie et c'est là que je suis rentré dans ma phase de colère. 12-7 ans après mon accident. Et qu'on a reconstruit le personnage. Et après, au bout de 3 ans, je me suis dit, je suis pas fait pour vivre tout seul. Et j'ai essayé de rencontrer une nouvelle fois l'amour.
Susanna.
Exactement. Susanna. Comme quoi, encore une fois, tout est possible. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Bon, j'avais mis une photo, mais avec ma tête. Hein. Et puis, je me suis ramassé plein de râteaux. Puis un jour, j'ai dit la vérité. Et comme quoi, j'étais une personne handicapée. Et Susanna m'a dit, mais je t'aime tel que tu es.
Donc tu retrouves goût à la vie grâce à ta rencontre avec Susanna, mais pas que, parce que très vite tu te lances dans un projet assez fou, celui de traverser la Manche à la nage. Tu t'entraînes pendant 2 ans à raison de plus de 35 heures de natation par semaine, et en 2010 tu le fais en 13 heures et 26 minutes. Et tu dis, je fais ça surtout pour moi, mais aussi pour établir un exemple. Je veux montrer aux gens qui souffrent que c'est faisable, que tu dois toujours te battre.
Exactement. De toute façon, la vie aujourd'hui, on a bien compris, c'est un combat permanent. Notre société, elle va à une vitesse phénoménale. Et si on ne s'améliore pas, si on ne progresse pas en même temps que notre société, on risque d'être à la rue, quoi. On risque d'être en retard. Donc, on est dans une perpétuelle évolution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'adaptation, pour ceux qui ont vécu un traumatisme comme le mien, on a pris l'habitude de s'adapter. On a pris l'habitude de se reconstruire dans les centres de rééducation. Donc le dépassement de soi, la résilience, tout ça, on le connaît par cœur. Le confinement, on le connaît par cœur. On l'a connu. Donc ce qu'on vit là aujourd'hui, pour nous, c'est pas une vraie catastrophe. C'est juste un passage qui va durer encore peut-être encore quelques semaines, voire quelques mois, mais ça va passer. Comme à chaque fois, l'humanité s'en est toujours sortie. Donc voilà, moi, j'ai pris cette habitude de m'adapter en permanence.
Quand tu termines cette traversée de la Manche, qu'est-ce que tu ressens?
Il y a 2 sentiments forts qui m'attaquent. Un sentiment de joie. Parce qu'on a réussi, je dis bien « on », parce que le « je » dans mes aventures n'existe pas, « je » n'existe pas. C'est « on avance » et « on réussit ensemble ». Enfin, il faut comprendre, je suis un gros bébé, moi, maintenant. Donc, sans les coups de main, et surtout, j'ai compris une chose, et ça, c'est un message important. Demander un coup de main, il ne fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur. Il faut le vivre comme un moment de partage. C'est marrant, notre société, comment elle nous a éduqués à dire qu'il ne faut pas demander un coup de main. Comme si c'était quelque chose de dramatique de demander un coup de main. Alors que non. C'est grâce au coup de main qu'on va atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est grâce au coup de main que j'ai réalisé mes rêves, que j'aime ma vie d'aujourd'hui. C'est grâce à tous ces gens qui se sont mis autour de moi pour m'aider, pour réaliser mes rêves. Même si 99% des gens n'y croyaient pas, il y a 1% qui y a cru. C'est les gens qui m'ont aidé. Et ça, c'est extraordinaire, non? Donc il y a ce sentiment de joie intense qui m'envahit après la traversée de la Manche et un sentiment de tristesse. En même temps, mélangé, c'était fini. J'allais rentrer à la maison. J'allais me séparer de mon équipe. Et ça, c'est quelque chose que je voulais pas. Parce que le plus beau, ce que tout le monde retient, c'est la traversée de la Manche. Mais le plus beau, en réalité, c'est les 2 ans de travail. Mmh. Imagine, j'ai 40 ans, j'ai jamais fait sport de ma vie, et je veux traverser la Manche à nage. Je suis gras comme un lardon. J'ai vécu dans un canapé pendant 10 ans. Et là, je demande à une équipe de me transformer. Et ils le font. Donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de jeu. Donc il y a ces deux sentiments-là qui m'attaquent, et je pars dans une nouvelle aventure. Je dis que je veux relier les 5 continents à la nage. Pardon.
Et donc, nouveau projet.
Voilà, ouais.
On ne t'arrête plus et tu entreprends avec un ami, Arnaud Chassery, je crois, d'accomplir 4 traversées pour relier les 5 continents à la nage en 2012. Donc, l'expédition s'appelle Nager au-delà des frontières et tu nages de l'Indonésie à la Nouvelle-Guinée, de l'Égypte à la Jordanie par la mer Rouge, de l'Europe à l'Afrique par le détroit de Gibraltar et 16 kilomètres de l'Amérique à l'Asie par le détroit de Bering.
Oui.
Et en 2013, tu bats le record de profondeur de plongée pour un amputé des 4 membres en touchant le fond à 34,5 mètres.
Exactement.
Donc c'est juste merveilleux, Philippe, tout ce que tu accomplis.
Ouais.
Et d'où te vient toute cette énergie et cette niaque?
Oh, tout simplement l'envie. Juste l'envie. Je ne fais pas des défis pour réaliser des défis. Ce n'est pas une histoire de défi même à la rigueur, c'est une histoire d'envie. Quand j'ai une envie, je me dis... Je ne me pose pas la question, est-ce que je peux? Tu sais, il y a beaucoup trop de gens aujourd'hui dans notre société qui se disent qu'on a des rêves, des objectifs. Mmh. Moi, mon mode de fonctionnement, pour comprendre mon mode de fonctionnement, c'est que j'ai d'abord une idée. Ensuite, je prends les infos. En 3e position, j'ai peur, mais c'est trop tard. L'aventure est lancée. Il faut y aller. Alors que beaucoup trop de gens, malheureusement, aujourd'hui, ils se disent j'ai un rêve, j'ai un objectif, mais en 2e position va arriver la peur. Mmh. Avec la mauvaise question. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je risque? Ça y est, c'est fini. Vous venez d'enlever 80% de chance d'atteindre votre objectif, parce que vous êtes fait peur en premier, sans avoir les informations. Et ça, c'est terrible. Et moi, le but, c'est de réaliser mes rêves, c'est de dire, mais très souvent, on me dit, mais c'est quoi ton meilleur souvenir? Et moi, ma réponse, elle est toute simple. Mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs dans ma tête à réaliser. Laissez-moi tranquille avec mes meilleurs souvenirs. Donc voilà. C'est pour ça que je dis très souvent, l'impossible, c'est juste nous. C'est personne d'autre. L'impossible, c'est juste nous. Quand tu es capable de demander un coup de main à quelqu'un, quand tu es capable d'avancer, même si c'est dur, même si tu pleures, mais bah, au bout de ton rêve, quoi. Ne lâche pas l'affaire. Tu es propriétaire de ta vie. Et bien sûr, il y a des gens qui vont te conseiller autour de toi. Mmh. Mais il n'y a qu'une seule personne qui doit décider. C'est toi. Et ça, c'est mon mode de fonctionnement.
C'est vraiment merveilleux. Quels messages forts t'ont transmis ces expériences?
C'est que vraiment tout est possible. Mmh. C'est vraiment des messages d'humanité assez extraordinaires, surtout quand on a relié les 5 continents à la nage. Enfin, faut regarder le documentaire ou lire le livre, oui. Plus fort la vie, mais... Oh la claque. Et au départ, vraiment, on était parti avec Arnaud pour réaliser, allez, 90% d'exploits sportifs et 10% d'aventure humaine. Et à la fin de l'aventure, au bout de 100 jours, c'est 90% d'aventure humaine et 10% d'exploits sportifs. C'est carrément l'inverse, quoi. Enfin, quand on est avec les papous, que les papous me donnent leur argent, ils sont pauvres, ils ont rien. Parce que j'ai pas de bras et pas de jambes, tous les papous me donnent leur argent. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Après, on a amené cet argent dans un petit dispensaire où ils s'occupaient de leurs enfants en situation de handicap. Mais partout, même quand j'arrive dans le détroit de Bering, à 100 km du cercle polaire, le dernier village, le village de Wells, là, il y a à peu près 150 Inuits qui vivent là. La maison commune est adaptée aux personnes handicapées. L'école est adaptée pour les enfants. Il y a 0 handicapé dans le village. Au bout du monde, j'étais plus une personne en situation de handicap, j'étais un citoyen comme tout le monde et j'étais accueilli comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Mais bon, voilà, c'est de la véritable aventure humaine qu'on a vécue. Donc, ouais, un moment de partage intense.
Est-ce que tu penses que cet amour pour la vie, tu l'aurais autant ressenti sans cet accident?
Je ne suis pas persuadé. Non, je ne suis pas persuadé. Je n'ai pas la réponse, hein, honnêtement. Mais je ne suis pas persuadé, non. Je pense que l'accident m'a réveillé. Enfin, j'ai compris surtout que la vie était très très courte et qu'il ne fallait pas perdre de temps. Il fallait la vivre et ne pas avoir de regrets. Sinon, on vit mal. C'est terrible, hein, d'avoir des regrets. Donc, non, je pense qu'il faut vivre sa life et être heureux surtout. Voilà, être heureux et rendre ceux qui sont autour de nous heureux le plus possible. Donc ça veut dire, de vivre tout simplement. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, je suis mort le 5 mars 1994. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. C'est du bonus. Donc je le vis à fond.
Et pourquoi parfois on attend un accident ou un choc pour justement réaliser tout ça?
Ça, je sais pas, je sais pas. Je pense que là, il y a eu un choc avec le coronavirus. D'ailleurs, la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, enfin ceux qui vont écouter ton podcast, je pense que c'est eux qui vont révolutionner le monde. On l'a bien vu déjà avant le coronavirus, il y avait déjà une sorte de révolution en disant « Mais qu'est-ce que vous avez fait de notre planète? Qu'est-ce que vous avez fait de notre parcours, de notre destin ?» Ok, on va reprendre les choses en main. Et là, je pense que votre génération, elle a tellement souffert dans le coronavirus, les étudiants, toute cette jeunesse qui a été un petit peu laissée pour compte. Je pense qu'après le coronavirus, quand ils vont se mettre en marche, je pense qu'ils vont révolutionner le monde. Ouais. J'en suis persuadé et j'ai très envie qu'ils le fassent, ouais, surtout. J'ai très envie qu'ils prennent leur destin en main et disent « Ok, les ancêtres, là, vous avez merdé, maintenant c'est à nous de bosser. Laissez-nous faire, on va la sauver, notre planète. » Et on va faire en sorte que le vivre ensemble puisse exister, et ainsi de suite. Je le souhaite de plus profond de mon âme. Et j'ai envie de le voir avant de partir. Donc, il me reste encore quelques années. Tu vois, j'ai 53 ans, donc il me reste encore quelques années à vivre. Et j'ai envie de le voir, ouais. De dire, waouh, ils l'ont fait.
Est-ce que tu le souhaites ou est-ce que tu ressens vraiment qu'il y a des initiatives qui émergent auprès de
toi? Ouais, je le ressens. Je le ressens, mais ça se voit. Ça se voit. Après, bon, il y a des jeunes qui ont évolué, comme Greta Thunberg, qui a pris le... Bon, après... Peut-être que c'est un petit peu trop, j'en sais rien, je veux pas m'immiscer là-dedans, mais ce que j'aime surtout dans notre société aujourd'hui, enfin dans notre époque, c'est que ce qui était impossible une minute auparavant devient possible la minute d'après, avec toutes ces start-up, tous ces cerveaux qui se mettent en marche aujourd'hui. Tu vois, moi, à mon époque, dans les années 80, 90, on disait « le futur nous réservera des choses ». Mais là, aujourd'hui, on n'ignore pas le futur. Il va nous réserver des trucs. Le présent va nous réserver des trucs. Ça va tellement vite. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vitesse de ouf. Regarde, je vais peut-être partir dans l'espace. Un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes va peut-être partir dans l'espace. Mm. Tu vois, je veux dire, j'ai rendez-vous au mois de septembre à Cap Canaveral avec Elon Musk et Jared, Isaac Mann. Tout ça à cause d'un tweet. Mm. T'imagines, dans les années 80, mais c'était même pas imaginable. Tu vois. C'est ce que j'aime dans l'espèce humaine, c'est qu'à chaque fois qu'on dit que ce n'est pas possible, on met tout en œuvre pour que ça devienne possible. Donc, je l'espère pour les auditeurs qui nous écoutent, à vous de jouer, quoi. Allez-y, défoncez-nous la tête. Montrez-nous qu'on a eu tort et que c'est vous qui avez raison. Mais vraiment, vous avez le destin en main, quoi. Vous avez votre destin en main. Et j'espère que ce que j'ai réalisé puisse vous montrer une voie, la voie du tout est possible. Mais vraiment.
Tu aimerais avoir 20 ans aujourd'hui?
Ah ouais, j'adorerais, ouais. Ben ouais, j'adorerais parce que c'est tellement... Déjà, si j'avais 20 ans, déjà, je bosserais peut-être un petit peu mieux à l'école parce que si je devais faire marche arrière, je pense que... Je m'améliorerai là-dessus. Tu vois, il y a un petit tableau derrière, là, je suis en train d'apprendre l'anglais.
Ah,
donc,
oui.
J'ai une heure et demie d'anglais par jour, tous les jours.
Et tous après, les jours.
Tous les jours, tous
même
les jours,
les
tous les jours. Alors, les week-ends, je travaille sur ma tablette. Et donc, je travaille une méthode qui s'appelle e-lingua.
Okay.
Et donc voilà, parce que si je vais aux États-Unis au mois de septembre, il faut que je sache au minimum un petit peu parler anglais. Parce que si on va parler en langage des signes, je ne vais pas pouvoir. Je n'ai pas de main non plus. Donc, on a un peu dans le... donc voilà, c'est un autre objectif, encore une fois, c'est d'apprendre l'anglais. Donc, encore une fois, tout est possible.
Mais parle-nous un petit peu de cette expédition spatiale-là. Je crois que tu as retweeté Elon Musk en lui disant...
Non, c'est moi. C'est un truc de fou. Enfin, d'abord, je fais un tweet en disant à mes followers, si j'atteins 50 000 followers avant Noël, j'envoie un tweet à Elon Musk. On est à un mois de Noël. Et au bout de deux heures, je fais 54 000 followers. Donc, je dis, là, je suis cuit. Il faut que je fasse un tweet à Elon Musk. Donc, je lui fais un tweet. Je dis, hello Elon. Voilà, je m'appelle Philippe Croison. Je suis un aventurier français. J'ai pas de bras et pas de jambes. Envoie-moi dans l'espace. Je me dis, voilà, la plaisanterie, ça y est, j'ai fait le truc que je l'avais promis. Et quelques heures plus tard, Elon Musk me répond. Hi Philippe, écoute, dès que la navette est prête, elle est adaptée, je t'envoie dans l'espace. Je dis, waouh. Et moi qui suis toujours culotté, je l'ai expliqué pendant ton interview, ose, tente ta chance mon gars, attends pas que les gens viennent vers toi, c'est à toi de les provoquer. Donc je lui dis, écoute, mes DM sont ouverts. Et là il m'envoie un message privé, hello Philippe, enchanté de faire ta connaissance, et depuis on échange par mail. Il m'a mis en contact avec Jared Isaacman, le colonel de la base qui s'occupe de la NASA, et tout ce petit monde est maintenant là et pour me dire comment est-ce qu'on va réaliser cette aventure d'envoyer ce mec qui n'a pas de bras et pas de jambes dans l'espace. Donc encore une fois, tout est possible à celui qui ose.
Magique.
Il faut oser, tenter sa chance. N'attendez pas, ça c'est un message fort aussi, c'est-à-dire que n'attendez pas que les gens viennent vers vous.
Oui.
Vous allez attendre longtemps. C'est à vous d'aller les chercher, c'est à vous de les provoquer. Encore une fois, le coup de main. Le coup de main, tente ta chance mon gars. Ça coûte rien de tenter. Regarde, on est ensemble tous les deux, pourquoi? Parce que t'as tenté de sa chance.
Oui.
T'as dit je vais faire une interview avec toi. T'as tenté de ta chance et ça a fonctionné. D'ailleurs, on est là tous les deux.
D'ailleurs, Alexandre m'avait dit, t'as de la chance parce qu'on en reçoit beaucoup, on n'en accepte pas beaucoup, etc.
Ah ouais, et... non. C'est, ouais, faut imaginer, vu que c'est la mode des podcasts,
oui.
On reçoit à peu près entre 10 et 15 demandes par semaine.
Waouh. Donc, et vous en acceptez combien à peu près?
Zéro.
Pourquoi moi, du coup?
Ben, je ne sais pas. Pourquoi? J'en sais rien. Tu vois, mais et pourquoi Elon Musk m'a répondu?
Oui.
Il a 40 millions de followers. Enfin, 50 millions maintenant. Pourquoi ce mec qui a 50 millions de followers a répondu à un petit Frenchie? Pourquoi je t'ai répondu? J'en sais rien, c'est le destin. Il y a un lien qui se crée, paf, ça y est, c'est fait, la connexion est faite. Peut-être que le mot, tu as eu un mot, une phrase qui nous a percuté, qui a dit ok, on va le faire. Je pense que parce que tu parlais à la jeunesse, ton podcast parlait à cette génération qui va se mettre en marche. Pardon, ça c'est un mot qu'il ne faut pas dire en marche, parce que ça va être politique, il faut faire gaffe. le changement c'est maintenant, ça non plus, ça n'a pas fonctionné, il faut arrêter les conneries. Donc, il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit maintenant.
Ouais,
oh, c'est fou.
Non, on va arrêter de faire attention.
Ouais. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le destin.
Et cette expédition, ça serait quoi du coup? Qu'est-ce que tu ferais?
Alors là, je vais au mois de septembre à Cap Canaveral, je vais au décollage de Isaac. Il est le premier, il va emmener 3 touristes avec lui, un voyage de 3 jours. Après, au bout de 3 jours, on va en mer. On va les récupérer à l'amérissage. Et ensuite, on passe un long moment ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser tout ça. Donc, mais déjà, il faut se rendre compte, déjà, même si je ne vais pas dans l'espace, même si les médecins disent « Ok, non, là, vraiment, on est trop loin du truc, c'est pas possible » ou un truc comme ça. Mais je vais aller à Cap Canaveral, quoi. Je vais aller assister au décollage de la fusée, à l'amérissage. Déjà, c'est une victoire de ouf. C'est une victoire de malade, quoi. Je veux dire, déjà, rien que ça, je suis l'homme le plus heureux du monde. Tu sais... dans ma live aujourd'hui, s'il y a des trucs qui se font, je suis super heureux. Si ça se fait pas,
c'est pas grave.
C'est pas grave. Il y aura autre chose derrière.
T'as tenté.
Mais oui, j'ai tenté ma chance. Il y aura autre chose. Il y aura plein de rebonds. Bah, t'imagines, depuis que je me suis réveillé, que j'ai traversé la Manche à la nage, j'ai tourné dans un film avec Franck Dubos qui s'appelle Les Têtes de l'Emploi. Je suis manutentionnaire. Des fois, je tourne dans les épisodes de Vestiaire sur France Télévisions. J'ai une chronique sur France 5 pendant 6 ans. Enfin, j'aime ma live. Ça a été dur. Ça a été violent. Mais aujourd'hui, je peux dire, ouais, haut et fort, j'aime ma vie. Ouais. Même s'il manque 4 trucs, je me suis habitué, j'ai accepté ma nouvelle façon de vivre, donc tout va bien.
Comme c'est beau d'entendre ça.
Bah ouais, c'est à nous de se battre.
On n'a pas l'habitude de l'entendre. Hein.
Bah je sais, parce qu'ils n'ont pas envie qu'on l'entende.
Ouais.
Donc ils ont plutôt envie qu'on entende des messages un peu négatifs, qui font peur, pour que tout le monde reste ensemble, bien, bien collé. Mon Dieu, il ne faut pas bouger, qu'est-ce qu'on va devenir? Bah non, il faut bouger et prendre notre destin en main, donc... Là, il y a TFA qui vient de tomber.
Mes questions. J'ai peut-être le sentiment aussi qu'on est plus influençable quand on a peur.
Mais complètement. Mais complètement. À partir du moment que la peur est là, tu es bloqué. C'est, moi, quand j'ai voulu traverser la Manche à la nage, la peur est arrivée, bien sûr. Elle est arrivée. Elle m'a accompagné pendant mes 2 ans d'entraînement. Elle m'a accompagné dans la Manche. La peur et le doute. Les deux. Ces deux personnages-là, je les appelle des personnages parce que pour moi, je les prends comme ça. Et il faut vivre avec eux. Faut pas qu'ils deviennent un poison. Faut pas qu'ils deviennent un frein. Ils sont là. Il faut s'habituer. Alors, bien sûr, j'ai pratiqué aussi beaucoup de préparation mentale. J'ai fait de la cohérence cardiaque, de l'auto-hypnose, de la sophrologie. Tout ça pour m'apaiser, pour me calmer et combattre cette peur et ce doute qui m'envahissait de temps en temps. Et des fois, il m'envahit trop fort. Et c'est pour ça que dans mes expéditions, on m'appelle la chialouse parce que je suis aussi quelqu'un d'hypersensible. Donc, je chiale tout le temps. Ça, c'est simple. Hein. Je suis heureux, je chiale. J'ai une bonne nouvelle, je chiale. Bah, tu vois, je suis hypersensible. Donc, pendant les expéditions, on m'appelle la chialouse. Et quand j'ai ce trop-plein de mauvaise énergie, bah, j'ai besoin de craquer. Donc, je prends mon gros fauteuil, je vais au bord de la mer ou je m'en vais quelque part et je vide. C'est-à-dire que je mets une musique un peu triste, tu vois, c'est un peu bizarre comme truc. Hein. Et je vide, je pleure, j'ai un gros sanglot. Et après, je mets la compagnie créole et je rentre à la maison. Voilà, c'est mon mode de fonctionnement, c'est ma façon d'être. Et c'est comme ça que j'arrive à gérer les trop-pleins de mauvaise énergie.
Alors, tu nous as déjà donné quand même beaucoup de conseils. Mais si tu devais retenir un conseil que tu aimerais partager aux jeunes d'aujourd'hui, ça serait quoi?
Oh, il est tout simple. Hein. Ose. Ose. N'attends pas, ose. Fais-le. C'est un refus, ma grand-mère m'a toujours dit, un refus, c'est pas un coup de pied au cul. Donc très souvent, quand j'ai un refus, quand je rentre par la porte, on me dit non, ben, je rentre par la fenêtre. Je dis non, tu m'as pas compris. Faut que je te réexplique une nouvelle fois. Et tu sais, de toutes mes aventures, à chaque fois que j'ai eu des partenaires, j'ai jamais eu un partenaire avec un mail et un coup de téléphone. C'est quand j'ai rencontré la personne. Je suis rentré dans son bureau et que je lui ai parlé de mon aventure, ce que je voulais réaliser. Et c'est comme ça que j'ai réussi à convaincre des gens. Toutes mes aventures, je les ai financées comme ça, parce que j'ai rencontré les gens en face à face.
Quelqu'un t'a dit un jour, depuis que vous avez pris 3 décharges de 20 000 volts, vous êtes devenu un distributeur d'énergie positive.
Ouais, j'adore cette phrase. Ça m'a fait marrer au départ, parce que je dis, ouais, effectivement, j'adore distribuer, c'est pour ça que je fais beaucoup de conférences. Il y a un monsieur qui m'a dit, vous me faites penser à un bourdon. Je dis, ah bon, à un bourdon? Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que le bourdon, scientifiquement parlant, il est énorme, il a un aérodynamisme de merde, il a des toutes petites ailes, donc le bourdon, normalement, scientifiquement parlant, il ne peut pas voler. Sauf que lui, il le sait pas. Donc il vole. Et ça, c'est vraiment ma life. Je ne sais pas que c'est impossible. C'est aussi la phrase de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais moi, à chaque fois que je lance une aventure, je ne sais pas que c'est impossible. J'ai envie de le faire. Donc plein de gens vont me dire non, c'est pas possible. Ces gens-là qui me disent c'est pas possible, moi, ça m'encourage. Ça m'encourage à leur montrer le contraire. je parle beaucoup.
Et c'est rigolo parce que tu as anticipé plein de mes questions, mais dans l'ordre du déroulé que j'avais prévu. Donc, c'est...
c'est ça qui est formidable.
Qu'est-ce qui te porte aujourd'hui le plus ?
Toujours l'envie. Et puis maintenant, je suis papy 2 fois. Hein, j'ai 2 petites filles. Et le bonheur de partager avec eux, quoi, le partage. Moi, ce qui me porte aujourd'hui, c'est de partager des moments forts. Il n'y a rien de plus riche que le partage. C'est pour ça que j'adore donner des conférences. J'adore être en face des gens, j'adore être en face de toi et de partager un moment avec tous tes auditeurs, tous ceux qui vont nous écouter. C'est dur, il faut se battre pour vivre des moments de partage de ouf. Et ça, quand tu réalises ça, tu te dis, excuse-moi, je vais dire un gros mot, hein. Putain, on l'a fait, quoi. Quand on est avec toute l'équipe et qu'on dit, putain, on l'a fait, ou alors, putain, je l'ai fait, qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, tu vas dormir, t'es content, hein, t'es heureux. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je continue ma life et que j'ai des rêves et que j'ai envie de les réaliser.
Et le bonheur, comment tu le définirais ?
Il est où le bonheur ? Il est où ? Ah ben moi, pour moi, le bonheur, c'est mes enfants. Tu vois, à Noël, tout le monde a fait le coronavirus, là, tout le monde a fait le test. Et on était toute la famille ici à la maison, quoi. Tu vois, on a 5 enfants avec leurs petits copains, leurs petites copines, nos petits enfants. Donc on était une 15aine ici à la maison, tu vois, et j'avais mes petits enfants avec moi. C'est ça le bonheur.
Génial.
C'est la vie de famille.
C'est beau. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager ? Quelque chose que tu aimerais dire au monde ?
Oh, à vous de jouer. Oui. À vous de jouer. Vous avez votre destin en main. Allez, faites-nous rêver.
Super, défi lancé. Merci beaucoup, Philippe.
Merci, à bientôt.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvel Œil grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.